Voilà, pour poser la première question, Patrick. Richard Etienne, Montpellier 3. Donc, dans ce que tu dis, parce que tu as été obligé d'aller très vite, tu n'as pas évoqué aussi une particularité française des masters qui sont ou professionnels ou recherche. Et ça, c'est un des points sur lesquels on a joué. Alors, j'ai cru comprendre que votre master était uniquement recherche, ou alors je fais une erreur d'interprétation.
Non, alors le master s'appelle professionnel. Mais on peut le concevoir comme professionnel tout en étant en même temps recherche. D'ailleurs, je ne sais plus où en sont les choses parce qu'on a quand même du mal à suivre un peu les informations. Je crois que pour le ministère, la distinction master recherche et master professionnel n'existe plus. D'autant que il semble que ce que l'on a l'habitude de tenir pour les meilleurs étudiants se sont massivement dirigés vers les masters professionnels, non pas parce que, alors les choses sont trop compliquées, parce que l'idée de professionnel leur paraît plus intéressante pour trouver un métier lorsqu'ils arrêteront leurs études, étant entendu qu'ils ne feront pas nécessairement des thèses ou qu'ils ne passeront pas des concours, etc. Donc il y a là une espèce de mélange, parce qu'on ne sait pas si ce qui est professionnel c'est la visée d'insertion dans le métier des gens ou la nature même d'un master qui ne serait pas de recherche. Nous, notre idée, c'est qu'il est très tranquillement de recherche, mais qu'il s'impose une visée professionnelle. Et il se l'impose d'ailleurs à double titre, puisqu'il est bifide, je ne sais pas comment il faut l'appeler, puisqu'il y a une partie qui est métier du soin et du travail social, avec un effectif d'étudiants identique à celui de l'autre partie qui est métier de l'éducation. Chacun des étudiants inscrits dans un des volets étant obligé de faire une partie de son stage dans le camp de l'autre. Donc voilà, je crois que c'est peut-être une manière pratique de répondre à cette question-là. La professionnalisation, elle joue sur le contexte, sur le fait de problématiser les choses en vue de l'exercice, mais pas du tout en fabriquant des produits finis ou semi-finis qui seraient des programmes de formation. Et de ce point de vue-là, alors une des manières d'ailleurs de régler un peu la question en amont, c'est que désormais, au début, nous n'avons inscrit les gens qu'en M2. Désormais, nous les inscrivons aussi dès le Master 1. Et au second semestre, ceux qui pensent qu'ils vont faire un Master plus branche professionnelle voient un parcours un peu fléché à l'intérieur du parcours recherche, mais la masse des enseignements sont des séminaires communs, y compris dans la deuxième année. Donc la construction de la maquette a délibérément mixé, mélangé à la fois deux types de public professionnel et à la fois les étudiants du profil recherche et les étudiants du public professionnel. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question.
Monsieur Rayou, bonjour. Luc Ria, donc programme professionnalité enseignante sur l'INRP. Je voudrais simplement reprendre, enfin en tout cas, je partage une grande partie en tout cas de ta conviction concernant le fait que de former pour des chercheurs. Donc de pratiquer une action de formation, ça oriente certainement, ça cible forcément autrement la recherche. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais on peut imaginer que dans un master de formateur, ça va être assez intéressant de voir comment on va pouvoir leur faire faire de la recherche ou une partie de la recherche pour qu'eux-mêmes décalent leur activité de formateur. Donc on est bien sur une sorte de dynamique permanente entre la recherche et la formation, permettant peut-être à des chercheurs de réorienter leur façon de faire de la recherche, mais aussi à des formateurs de réorienter leur propre activité de formateur. Ce qui me semble aussi intéressant, par rapport à ton intervention, c'est que tu insistes sur des recherches à visée professionnelle. Peut-être qu'il manque un mot, c'est de s'intéresser à la praxie, en tout cas à des éléments même de la praxie. Et il me semble que là, il y a peut-être deux niveaux possibles. C'est à la fois de repérer les effets de l'action des enseignants sur les élèves, tu vois, dans une perspective de classe et d'observation de la classe, mais après, à un deuxième niveau, puisqu'on est sur la formation de formateurs, de repérer les effets de l'action des formateurs sur un public d'enseignants, puisqu'on est à un deuxième étage ici, là. Et là, je crois qu'on a continué à travailler et à développer des recherches pour ces formations de formateurs, pour arriver à repérer les effets d'un dispositif de formation sur des formateurs ou sur des enseignants. Et c'est à ce niveau-là, je crois qu'on a encore pas mal d'immaturité, que les chantiers en cours sont assez peu nombreux.
Oui, merci. Il faut se méfier de ses amis. Hein. Il pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre. une de nos difficultés, et pour continuer à essayer de répondre à la question de Richard, c'est que nous-mêmes, nous avons l'habitude de faire problématiser les étudiants dans des termes de recherche. Alors, les recherches sont toujours contextualisées. Je reprends là un débat qui avait suivi le rapport d'Antoine Prost sur la question des recherches en éducation, et où il préconisait que les recherches en éducation, ce qui faisait leur spécificité, leur identité, leur raison d'être, c'était qu'elles étaient contextualisées. Alors, d'une certaine manière, toutes les recherches sont toujours contextualisées par quelque chose. Il n'est pas facile. Enfin, l'idée est intéressante, mais je crois que jusqu'à présent, on n'a pas trop répondu à la question. Qu'est-ce que c'est contextualiser, sinon de viser ces situations qui sont ou des situations dans lesquelles on éduque ou des situations dans lesquelles on forme. Lorsque des étudiants viennent avec des projets qui nous paraissent des projets de recherche tout à fait intéressants, nous essayons de faire ça, c'est-à-dire de dire très bien, on a là le noyau, mais encore faut-il aller voir, mettre à l'épreuve ceci dans des dispositifs dans lesquels ça existe pour voir comment ça marche. Je vais prendre deux exemples. Le cas d'une étudiante que lui connaît par ailleurs, qui voulait travailler sur l'éthique des jeunes enseignants. Il y a là un sujet qui peut être tout à fait intéressant parce que ces perspectives-là éthiques aujourd'hui sont développées dans le champ de la formation en général. Mais ce que nous avons essayé de lui dire, c'est qu'il ne s'agissait pas de faire un travail philosophico-sociologique sur ce thème-là, parce qu'après tout, ça peut en effet se regarder comme un objet en soi, mais d'essayer de voir en quoi cette question de l'éthique des nouveaux enseignants, pour autant qu'elle existe, posait des problèmes de réceptivité de la formation. L'idée, c'était ça. S'il existe cette éthique-là, et si l'IUFM l'ignore, passe à côté, ne veut pas en tenir compte, alors ça devient un objet intéressant pour voir comment à la fois les enseignants s'y forment, si c'est une nécessité pour eux, dans quels endroits, formels, informels, qu'est-ce qui en est fait l'IUFM, comment ça influence ou pas l'IUFM, comment les perspectives des formateurs et des formés peuvent se glisser les unes sur les autres, etc. Donc je crois qu'on peut récupérer des sujets tout à fait pointus, vous voyez, l'éthique nous renvoie encore à Aristote, en termes théoriques, mais en même temps le traiter du point de vue de comment est-ce que c'est présent dans les situations de formation, sous quelle forme, clandestine ou pas, et comment ça peut être traité comme un objet de formation. Autre thème qui me revient à l'esprit parce qu'on l'a abordé hier dans les entretiens que l'on fait avec les postulants, parce que nous aussi sommes dans cette situation luxueuse où nous refusons des étudiants après les avoir traqués. C'est une étudiante qui souhaite savoir comment, qui s'intéresse à la construction par les enseignants des parents de milieux populaires. Elle est dans la question de l'injonction au partenariat école-famille et elle se rend compte, comme d'autres je crois, que appeler au partenariat école-famille après des dizaines d'années, voire de siècles dans lesquels on a tenu les familles à l'extérieur de l'école posait quelques problèmes et ne pouvait pas se résoudre par l'injonction administrative. Mais ce qui faisait l'objet de sa note de recherche dans laquelle elle a brassé Perrier, Thym, etc., etc., les choses connues en la matière, nous lui demandons de tirer ce sujet sur, encore une fois, la façon dont cette question est abordée ou pas abordée dans les plans de formation de l'UFM, dans les formations de l'UFM, ou traitée à la périphérie des établissements scolaires par des associations de parents d'élèves, de volontaires, où ils vont ou n'y vont pas les enseignants, etc. Donc voilà, je crois que si j'essaie de donner quelques équivalents empiriques de ces thématiques-là, on est toujours sur des interrogations fortes, l'éthique, les rapports école-famille, qui sont des sujets de recherche absolument classiques et qui pourraient tout à fait avoir la qualification de la 19e section le jour où elle aura reconstruit son CNU, mais qui en même temps ici ont un aspect assez particulier puisqu'il s'agit d'aller voir, encore une fois, comment ça se passe dans les lieux où ces problématiques-là sont en jeu.
Juste pour terminer, je suis très sensible à cet aspect de l'éthique parce que ça me rappelle les souvenirs de formateurs anciens. On ne peut pas distinguer l'éthique sans... Enfin, on ne peut pas parler de l'éthique sans viser la déontologie aussi. Et comme nos enseignants sont des fonctionnaires, sont appelés à être fonctionnaires, je pense qu'il faut, dans un master de ce style-là, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de la déontologie des fonctionnaires qui, effectivement, est un autre champ, mais qui permet après d'aborder celle de l'éthique.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à cette candidate-là, qui étant partie sur des questions d'éthique, a dû se centrer sur les questions de la déontologie et la précision est tout à fait intéressante. Donc, connaît par cœur l'œuvre d'Éric Préra et s'est coltiné, s'est colté avec ces questions-là, qui précisément, je trouve que c'est voilà, la remarque est tout à fait à propos parce que parce qu'il veut dire la dérive, mais en tout cas le flux normal de sa recherche l'a amené à des questions déontologiques qu'elle ne se posait pas du tout au départ, hein, parce que travailler les questions de l'éthique comme peuvent le faire des théoriciens aujourd'hui comme Taylor ou autres, hein, qui sont des éléments de la postmodernité, voilà, ont une signification particulière dès qu'on s'adresse à la professionnalisation et font qu'on rencontre nécessairement la question de la déontologie avec ce brûlot, hein, que continue d'être la question de peut-il y avoir une déontologie des enseignants avec un certain nombre de points minimum. Et bon, je pense à Préa parce que c'est quelqu'un qui a le courage de au moins de poser quelques points qui lui paraissent des incontournables, des fondamentaux de la déontologie enseignante, au risque évidemment d'apparaître comme quelqu'un qui contraint trop, etc. Mais on est là dans une vraie problématique professionnelle, à mon avis.